Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip larges Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Dominique Schelcher.
Bonjour Apolline de Malherbe.
Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions et pour nous accompagner véritablement dans les rayons et essayer de mieux comprendre cette histoire de prix. Quand est-ce qu'enfin ils vont baisser? Vous êtes le président, directeur général de Système U, tous les magasins U. On va parler avec vous rayon par rayon de ce qui baisse ou de ce qui ne baisse pas. On nous avait promis que l'inflation était derrière nous, que ça allait enfin se voir. Et on va aller ensemble dans les rayons. Mais est-ce qu'il y en a un où vous vous dites, tiens, si on veut vraiment des baisses de prix, on y va en priorité?
Il y a un rayon où il y a des baisses significatives en ce moment, ce sont les produits d'entretien. Et c'est la conséquence ça, de la nouvelle loi qui a changé la règle sur les promotions dans ce rayon, qui fait qu'il y a un peu moins de promotions sur les produits d'entretien d'hygiène. Par contre, les prix des produits du quotidien dans ces rayons-là baissent du coup jusqu'à 5%, même plus. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant.
C'est très paradoxal, c'est-à-dire que cette inquiétude qu'on avait et qu'un certain nombre de Français avaient de ne plus avoir ces promotions et donc de devoir payer au fort prix les produits d'hygiène, finalement, ça a entraîné une baisse moins grande peut-être que les méga promos, mais plus générale.
Exactement. Donc ça, c'est quand même un peu la bonne nouvelle, même si évidemment, à court terme, on regrette cette capacité à faire des promotions intéressantes et qui peut d'ailleurs détourner les clients vers d'autres circuits. Ça, c'est un point.
C'est quoi le maximum là du coup des promotions sur les produits d'hygiène?
C'est moins 34%, comme sur l'épicerie qui existait depuis un certain temps déjà.
Alors on va commencer aussi par le rayon chocolat puisque c'est Pâques bientôt et qu'on découvre que la tonne de chocolat aujourd'hui est plus chère que la tonne de cuivre. Est-ce que ça va avoir des conséquences immédiates ou est-ce que les prix sont chers aujourd'hui pour Pâques et seront encore plus chers après?
Absolument, c'est spectaculaire. En fait, depuis janvier 2023, le prix de la tonne de cacao a triplé. Triplé, c'est complètement incroyable. C'est du jamais vu. Et effectivement, il y a un repère dans le monde des matières premières, c'est le cuivre et c'est plus haut que le cuivre. Alors, qu'est-ce qui se passe déjà pour expliquer aux Français? C'est des mauvaises récoltes. Donc là, c'est vraiment la suite du dérèglement climatique. Au Ghana, en Côte d'Ivoire, qui sont les grands pays producteurs mondiaux, les récoltes sont très mauvaises. Il y a eu des maladies parce qu'il y a eu beaucoup d'humidité. Enfin, il y a eu un enchaînement très négatif. Quel est l'impact? En gros, le chocolat a déjà pris 10% l'année dernière en conséquence de ça. Nous, on a anticipé la campagne de chocolat de Pâques. Donc, l'impact sur le chocolat de Pâques, là, en ce moment, il est limité. Moins de 10% de hausse, il y en a un peu, mais moins de 10%.
On parle de 5%, c'est le chiffre qui est donné ce matin par RMC. 5% en moyenne de hausse sur les prix du chocolat par rapport à il y a un an.
Oui, depuis le début de l'année, mais déjà après une première hausse l'année dernière. Et donc, pour répondre à votre question, l'impact est attendu vraiment sur les tablettes dans les semaines qui viennent. Sur le chocolat de Noël, ça c'est sûr. Ça, il faut s'attendre à un impact fort sur le chocolat de Noël. Et alors sur Pâques 2025, probablement, si la donne ne change pas. Mais ce qui est très intéressant, à mon avis, ce qui est intéressant, historiquement, le cacao vient d'Amérique du Sud. L'Afrique a pris le dessus dans la production. Peut-être que ça va réinverser les choses parce que ça va un peu mieux en Amérique du Sud. Donc, à court terme, la situation est tendue, mais peut-être que dans quelques temps, voilà, ça va se rééquilibrer.
Et quand on poursuit dans les rayons, on arrive aux fruits et légumes. Et là, est-ce qu'enfin ça baisse? Alors, c'était un des points, les produits frais. On va en venir évidemment à ce qui est de la viande aussi. Mais les produits frais font partie des produits qui avaient le plus augmenté. On en est où aujourd'hui?
Le plus augmenté et aussi le plus arbitré par les consommateurs derrière.
Qui avaient beaucoup renoncé.
Tout à fait. Ça va un peu mieux. Par exemple, le premier rayon qui avait fortement augmenté sous le coup du prix du carburant, c'était la marée. Donc le poisson, les filets de poisson. Ça va un peu mieux, ça a baissé. Donc globalement, sur les rayons métiers du frais, comme on les appelle, ça a sensiblement baissé, ça va un peu mieux.
Mais ça a baissé... Pardon, je redemande bien les choses parce qu'on nous a parlé de la baisse de l'inflation. Mais il faut bien comprendre, l'inflation a baissé. Pour autant, les prix eux-mêmes ne sont pas revenus à des prix précédent.
Non, mais complètement. On est en train de passer sous 3%. Ça y est, on est sous 3% d'inflation sur un an.
Sur les produits alimentaires.
Sur les produits alimentaires. Si on regarde sur deux ans, on est encore à 19%. Et on ne reviendra pas au prix d'avant. Hein. Ça, il faut le redire aux Français. Parce qu'il y a des éléments inflationnistes de base. Au-delà des matières premières dont on discute un peu, il y a la question des salaires. Ils ont augmenté l'année dernière. Il y a la question de l'énergie qui pèse. Et donc, pour ce type de raisons-là, on ne reviendra pas au prix d'avant. Mais à nous, bien sûr, de chercher en permanence là où il y a quand même des matières qui baissent et où on peut répercuter. J'ai parlé, par exemple, de la droguerie. Le papier, tout ce qui est papier toilette, par exemple, baisse également. Des produits à base de blé, parce que le blé a baissé. Donc là, ça continue et il y aura encore des baisses sur les pâtes. Il y en a déjà eu, il y en aura d'autres. Donc il y a quand même des poches où les prix baissent.
Dominique Schelcher, vous disiez tout à l'heure, ça fait partie, les produits frais, des produits sur lesquels les Français ont arbitré défavorablement. Est-ce qu'ils reviennent dans ces rayons? Est-ce que vous observez un changement dans le comportement, dans la consommation des Français?
Eh bien, moi, je vous le dis, on est en déconsommation en France aujourd'hui. On est en déconsommation. L'impact de l'inflation au départ, on en avait parlé ici, c'était d'abord de l'arbitrage. Moins de non-alimentaires, moins de produits frais traditionnels, moins de grandes marques au profit des marques distributeurs. On continue là-dedans. Moi, je n'observe pas de grandes tendances d'inversement. Et je vais même plus loin. Depuis la rentrée, on observe de la déconsommation, ça veut dire de la baisse de volume. On était à moins 4,5% de volume au mois de janvier, moins 1,2% en février. Les gens achètent moins. Et j'ai même ce chiffre qui m'avait frappé. En gros, dans tous les magasins en France, il y a 39 milliards d'articles qui passent au scanner. 850 millions ont été déconsommés l'année dernière. Il y a eu 850 millions d'articles qui sont passés en moins dans nos caisses. C'est gigantesque, ça s'accélère et je ne vois pas de tendance inverse. Et dernier chiffre très intéressant, en France en moyenne, le prix moyen acheté d'un article, c'est 2,85 €. La dernière tendance des panélistes que j'ai encore vu hier, les produits de plus de 3 € sont en baisse de volume aussi. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'on bloque. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de plafond dans
Exactement.
La consommation.
Il y a un plafond dans la consommation.
Qui s'est établi autour de 3 €.
Exactement. Et il y a moins de volume parce qu'il y a une grande partie de Français qui ne s'en sort pas avec cette inflation. Il faut le rappeler, il faut le dire, il faut l'avoir
Vous
en tête.
Vous pensez à quel genre de produits avec cette barre des 3%? Des 3 €, pardon.
Par exemple, les produits de beauté sont souvent au-delà de ce prix-là. Mais même, ça va plus loin, très intéressant. On dit toujours, et dans les déclarations des clients, ils disent « oui, mais j'achète beaucoup de produits en promotion ». Mais même la promotion est en difficulté. Il y a des clients qui commencent à dire « mais moi, finalement, acheter un grand lot qui va durer dans mon placard, qui est plus que 3 €, etc., ça m'intéresse moins qu'avant. Ce que je veux, c'est le prix bas ». Du produit que j'achète tout le temps dans le rayon. Et c'est bien pour ça qu'ils choisissent aussi U, parce qu'ils ont constaté, alors qu'ils regardent les étiquettes, qu'on est très bien placé en prix.
Des consommations, vous dites, et ça ne change pas. C'est-à-dire que quand vous m'expliquez que les produits frais, le poisson, à un moment c'était trop cher, on n'y allait plus. Les prix reviennent légèrement à la baisse, pour autant les consommateurs ne reviennent pas.
Non.
Ils y ont renoncé. D'une manière quasi définitive, si je vous
alors,
en tout cas durable.
Pour l'instant, ça a l'air durable. Moi, j'observe les chiffres tous les mois. Pour l'instant, c'est durable. Je n'observe pas de tendance dans l'autre sens. Peut-être un petit signe positif, les produits plaisir. Les produits plaisir, il y a des petits signaux qu'on s'y intéresse un peu plus. Le produit plaisir, c'est le chocolat. Le chocolat de Pâques marche très bien en ce moment.
Malgré effectivement ces 5% de hausse, qui sont donc au-dessus de l'inflation alimentaire.
Tout à fait. J'ai l'impression que le chocolat peut être un peu le doudou des grands. Hein. On se fait plaisir dans cette période qui est quand même pas mal anxiogène. Les gâteaux, quelques alcools aussi fonctionnent un peu mieux. Donc, une petite lueur sur les produits plaisir, mais après, fondamentalement, les gens ont pris de nouvelles habitudes. Et mon hypothèse aujourd'hui, c'est que ces habitudes vont durer. On achète un peu moins, peut-être une espèce de sobriété qui s'installe, parce que beaucoup de gens disent aussi, mais est-ce que finalement j'ai besoin de consommer toujours autant? Est-ce que j'ai besoin
c'est
de changer
C'est un nouveau rapport à la consommation.
C'est un nouveau rapport à la consommation qui s'installe et probablement durablement, comme vous venez de dire.
Dominique Schelcher, vous parliez aussi à l'instant de l'alcool. Vous avez vu ces magasins Carrefour qui vendent des bouteilles de Bordeaux à 1,66 €. Vous faites ça, vous? C'est une bonne idée ou une mauvaise idée?
C'est pas une bonne idée en pleine crise agricole, incontestablement. Et là, je prends le contre-exemple. On fait fabriquer des vins pour la marque U, notre marque distributeur. On fait ce qu'on appelle des assemblages. Eh ben, on accepte pour ces produits-là, d'acheter un peu plus cher pour couvrir les coûts de production des viticulteurs. Et c'est ça qu'il faut faire. Et le vin à la Marcu, il est sur des engagements de ce type-là. On achète pour
couvrir...
C'est
du vin français ?
Et c'est évidemment du vin français. Les produits sont essentiellement français à plus de 80%, sauf les produits comme la feta ou des fromages ou des charcuteries italiennes ou grecques. Voilà.
Parce que c'est marqué dessus. Dominique Schelcher, justement, sur le fait que ce soit marqué dessus ou pas, est-ce que vous avez eu davantage de contrôle dans vos rayons ? C'était l'une des promesses de Bercy à la crise des agriculteurs, dire qu'ils contrôleraient davantage l'origine, la provenance des produits. Est-ce que vous les avez vus débarquer dans vos magasins ?
Je confirme complètement la multiplication des contrôles. Déjà dans notre centrale d'achat, oui, et également en magasin, aux quatre coins de la France, sur ce qu'on appelle la francisation. Est-ce que ce qui est dit sur l'emballage est confirmé dans la réalité ? Globalement, les contrôles chez nous se sont plutôt bien passés. Mais oui, je confirme.
Il n'y a pas une mauvaise surprise ?
Et il n'y a pas eu de mauvaise surprise chez nous. Et il y a eu deux types de contrôles. Il y a eu les contrôles officiels des DGCCRF. On a eu beaucoup de contrôles, entre guillemets, des agriculteurs eux-mêmes aussi qui sont venus voir. Et là, par contre, il y a des choses intéressantes qui se passent. Par exemple, on a eu un reproche par certains agriculteurs, c'est « Mais pourquoi vos pâtes, elles sont avec du blé d'origine européenne ?» Mais ça, c'est très intéressant. Aujourd'hui, en France, comment on fabrique une pâte ? On fabrique une pâte avec du blé dur. La France produit uniquement 35% du blé dur nécessaire à sa consommation de pâtes sur toute une année. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On importe tous, nous et les autres, 70% du blé dur.
On n'a pas le choix.
On n'a pas le choix. Et donc, par exemple, aussi pour lutter et trouver des solutions dans cette crise agricole, il faut se poser aussi les questions de qu'est-ce qu'on doit reproduire en France pour... être plus indépendant.
Ça, c'est pour les pâtes, mais pour ce qui est notamment des produits transformés, cuisinés. On a beaucoup parlé du fameux poulet ukrainien, ce poulet sur lequel les droits de douane ont considérablement baissé et qui ont fait venir en France et partout en Europe, du poulet beaucoup moins cher que le poulet qui est produit en France, à la fois pour des raisons de salaire, mais aussi pour des raisons de qualité et notamment de durée de vie du poulet, de maturité du poulet. Ce poulet, il représenterait aujourd'hui 50% du poulet consommé en France, notamment dans les nuggets, dans les cordons bleus, dans tout ce qui est produit transformé. Est-ce que là-dessus aussi, vous dites, on va s'engager à ce que, y compris sur les produits transformés, ce soit du poulet d'origine France ?
Mais bien sûr, mais nous, on a pris un engagement depuis 2019 chez Système U sur notre marque U. On fait la transparence des origines. Je prends un exemple. Si la compote est pomme-poire, si la pomme vient de France, évidemment, on l'écrit origine France. Et si la poire, parce qu'on n'a pas, sur cette saison-là, trouvé de poire suffisamment en France et qu'elle vient d'Italie, on écrit origine Italie. Donc, nous sommes pour la transparence complète des origines et la symétrie. Et ça, ça conduit à deux choses. Un, améliorer nos recettes pour dire on va davantage vers l'origine France. Et puis, ça bouge le comportement des consommateurs qui... recherche l'origine France et qui disent ben non, là ça m'intéresse moins. Donc nous sommes pour ça et donc je soutiens le projet de la ministre Olivia Grégoire, Origine Info, qui a pour
une
but
une sorte d'origine score, comme il y a le Nutri-Score,
qui conduirait d'ici, allez on va dire mai, à un logo pour montrer au quotidien un peu l'équivalent du Nutri-Score, l'origine française ou pas. Mais nous, on est déjà très engagés. Et sur la volaille, je confirme ce que vous dites, la moitié de la volaille vendue en France, la moitié est d'origine étrangère. Là aussi, pourquoi il n'y a pas assez de volaille en France ? Donc, posons-nous les bonnes questions. Et nous, on a des engagements très fermes sur la volaille fraîche. Elle est d'origine française, bien évidemment.
L'agneau Pascal, je voudrais
exemple.
Comprendre, quand on regarde le cours de l'agneau, on se rend compte qu'il est vendu 10 euros le kilo s'il vient de Nouvelle-Zélande, il est vendu 24 euros s'il vient de France. Moi, je voudrais comprendre comment il est possible qu'un agneau qui a traversé toute la planète soit quand même vendu 14 euros de moins le kilo. Comment c'est possible ?
C'est pas nouveau, c'est un phénomène historique depuis toujours. Nous ne produisons pas assez d'agneaux en France pour couvrir la saison de consommation.
Non, donc, mais donc on importe. Le produit qui vient de dizaines, vingtaines, peut-être une centaine de kilomètres au maximum, il est vendu 24 euros le kilo. Celui qui a traversé la planète, il est vendu 10 euros le kilo.
Mais quelle est la différence ? Quelle est la différence ? Ce sont des conditions de production. En Nouvelle-Zélande, ce sont de très, très grandes exploitations massives avec...
des gigafermes.
des fermes très très importantes, mais en plein air, etc., mais où ils peuvent écraser leurs coûts de production. En France, c'est bien connu, nos fermes sont souvent plus petites, les coûts de production sont donc un peu plus importants, et donc ça, c'est un sujet aussi qu'il faut travailler pour
réduire l'écart. Mais là, vous faites quoi, vous, Dominique Schelcher, à la tête de Système U, vous dites quoi? Vous dites, bon, bah, tant pis, on va faire payer l'agneau plus cher, mais il viendra de France, ou est-ce que vous choisissez quand même d'aller le chercher en Nouvelle-Zélande?
Mais on en cherche quand même en Nouvelle-Zélande, parce qu'on ne refuse pas de vendre du produit. Par contre, dans la plupart de nos régions, dans nos prospectus, on a mis en avant l'agneau français. Et malheureusement...
Donc, en fait, vous dites aux consommateurs, c'est à vous de faire aussi le boulot.
Absolument.
Est-ce que vous êtes prêt à payer 24 euros le kilo pour avoir de l'agneau français, ou est-ce que vous êtes trop ric-rac, vous allez prendre l'agneau qu'on vous propose
et
de Nouvelle-Zélande?
Il y a un petit risque. Quand on assume de mettre dans notre prospectus, dans la plupart de nos régions, l'agneau d'origine française, on sait qu'on risque d'en manquer parce qu'il n'y en a pas assez en production. Mais donc, vous voyez, on est prêt à l'assumer et à dire, bah oui, malheureusement, passez votre commande, il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde, on fait nos meilleurs efforts, mais il n'y a pas forcément les quantités.
Dominique Schelcher, je vous ai souvent reçu ici à des moments de hausse du carburant et vous faisiez le boulot, vous les distributeurs, en disant bon, on est prêt à vendre éventuellement à prix coûtant, le gouvernement vous avait même demandé de vendre à perte et puis finalement il y a eu des aides. On l'entend, désormais les aides c'est fini. Le mot « rigueur » est prononcé par le gouvernement. Il n'y a plus d'argent dans les caisses. Le déficit est considérable, bien plus important qu'il n'imaginait. Le fait que vous ayez été, vous aussi, aux avant-postes, des aides différentes qui ont été mises en place. Il y avait le fameux panier anti-inflation. Il y avait les aides à la pompe. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites, on bascule dans une nouvelle ère et vous allez vous-même en être les témoins?
Je suis d'accord qu'on bascule dans une nouvelle ère. Je suis chef d'entreprise. J'ai une responsabilité de mener, de diriger mon groupe. Quand je vois le contexte, évidemment, du déficit, ça me préoccupe et on ne peut que aller dans le sens d'une gestion et d'une réduction de ce déficit. Et je vais vous dire, Système U est un groupe qui se porte plutôt bien, mais on prépare l'avenir. Et avec l'équipe de direction de la coopérative, on a décidé, nous aussi, par exemple, de chercher des économies.
Je veux dire, où ça?
Dans nos frais de fonctionnement interne. Pourquoi? Parce qu'on sent que l'économie est en train de ralentir. Je vous ai parlé de déconsommation. On se prépare, nous aussi, à la suite. Donc, que le gouvernement prenne des dispositions pour réduire le déficit demain, trouver des solutions, moi, en tant que chef d'entreprise, je ne peux que soutenir cette orientation-là.
Qui a gagné la bataille entre les industriels et les distributeurs?
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une crise agricole ces derniers jours et qu'il y a aujourd'hui une partie prenante de cette chaîne alimentaire qui ne s'en sort pas, c'est le monde agricole. Et donc lui, il faut travailler, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs actuellement ardemment.
Oui, mais alors,
pour améliorer.
Mettons-le de côté et parlons de ce qui s'est passé quand même dans ces fameuses négociations commerciales. On a l'impression de les avoir suivies quasiment au jour le jour.
C'est vrai.
Un véritable bras de fer entre vous, les distributeurs, et les très grandes marques. Des industriels, de l'agroalimentaire notamment. Est-ce qu'à la fin, les augmentations considérables qu'ils demandaient, vous qui disiez non mais ils nous demandent trop, qui gagne à la fin?
Ce qu'on constate, c'est qu'il y a un quart des produits qui baissent et le reste qui est aux alentours de...
Ça veut dire qu'il y en a trois quarts qui montent?
Il y en a trois quarts qui montent, mais très légèrement. Et moi, je vous répète ce que j'ai toujours dit ici, c'est que du côté des grandes multinationales avec qui on a eu parfois des discussions difficiles, je pense que pendant cette période où les chiffres d'affaires ont été relativement importants et soutenus pour elles, elles n'ont pas forcément assez joué le jeu de l'aide des Français sur cette inflation. Et on le voit et on suit les résultats qu'elles font et qui sont importants. Je parle des multinationales, encore une fois. Elles auraient pu parfois
vous
jouer...
Vous parlez de Danone, de Coca, de Nestlé.
D'accompagner davantage les Français. Et nos désaccords étaient souvent là-dessus. On ne comprenait pas le niveau de hausse demandée. On disait, expliquez-nous-le, faites la transparence là-dessus. On ne l'a pas toujours obtenu. Et c'est ça qui a parfois créé de la friction.
Est-ce que les consommateurs... ont arbitré? C'est-à-dire, est-ce que dans ce combat, le fait que le Coca soit passé trop cher, le fait que entre un yaourt Danone très cher et un yaourt Super U ou Leclerc...
Mais complètement.
Les consommateurs choisissent désormais vos marques.
Le produit U est 25 à 35% moins cher, mais les Français ont choisi, arbitrent, délaissent les grandes marques et surtout dans les études, ce qui est très intéressant, disent même maintenant, mais pour nous, ce sont des produits équivalents qui sont qualitativement très bons et les Français ont raison de faire ces choix-là.
Sur le CETA, vous l'avez vu, les sénateurs ont dit non. Le CETA, c'est cet accord de libre-échange entre le Canada et l'Europe. Est-ce que ça aura des conséquences si ce vote est confirmé ?
Avec le Canada, moi, simplement ce que je dis, c'est qu'il faut qu'un accord soit simplement équilibré. C'est-à-dire que si au bout du compte il y a des échanges,
c'est la fameuse question des clauses miroirs.
Voilà,
c'est-à-dire
c'est
qu'on
ça.
Impose comme norme aux Européens, on doit l'imposer aussi de l'autre côté.
Fondamentalement, moi. On ne peut pas être contre des échanges internationaux, c'est le monde économique aujourd'hui. Par contre, je comprends les agriculteurs, il faut les bonnes contreparties. Et après, les agriculteurs sont aussi contents, évidemment, d'exporter. Mais encore, faut-il qu'ils aient...
Mais est-ce qu'il y aura des conséquences ? Est-ce que le CETA a des conséquences sur vous dans les importations que vous faites depuis le Canada ?
On en fait... Du Canada, pas forcément beaucoup. Il y a un point particulier, c'est la graine de moutarde. Beaucoup de la graine de moutarde, par exemple.
Et on se souvient évidemment du moment où il y avait une pénurie de graines de moutarde.
Voilà. Donc oui, il y aura sans doute des impacts dans un sens ou dans un autre. Moi, je suis pour des accords équilibrés et avec les bonnes contreparties pour aussi nos agriculteurs.
Merci Dominique Schelcher, président, directeur général de Système U. Et vous nous le dites effectivement ce matin, c'est aussi cette question de la déconsommation qui est aujourd'hui 8h52.